Bonjour à tous. Je suis Caroline Dubois, l'hôtesse de cette seconde édition du Sommet mondial de la réussite. Si vous voulez aller au bout de vos rêves et passer à l'action, voici une conférence qui répondra à vos questions. J'ai le grand plaisir de vous présenter Antoine Filiciadis de antoinefilisiadis.net. Antoine est né à Athènes et vit entre Chypre et la Belgique. Il exerce le métier d'entraîneur depuis 25 ans. Il crée et anime des stages de motivation, de transformation et de changement de vie. Il réalise aussi un de ses rêves d'enfant depuis 1998, l'écriture. À ce jour, il a écrit 6 romans. Son premier livre est son best-seller et le sujet de cette conférence « Va au bout de tes rêves ». Il a été traduit en plusieurs langues. Son moteur est la passion. Lors de cette conférence, Antoine va nous enseigner comment aller au bout de ses rêves quand on est plein de doutes. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence « Va au bout de tes rêves » et joignez-vous à moi pour accueillir Antoine Filiciadis. Bonjour Antoine.
Bonjour. Alors j'aime bien votre présentation. Il faut savoir, je le dis à tous, qu'en fait je ne vais rien enseigner du tout parce que ce que j'enseigne en fait, c'est la vie et les expériences qui nous apprennent quelque chose. Donc en fait, ce que je vais vous parler en fait des constatations que j'ai faites depuis 30 ans en enseignant ce que, comme vous dites, la motivation et comment aller au bout de ses rêves, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est-à-dire que jusque l'âge de 30 ans environ, j'étais moi-même prisonnier des injonctions parentales. Tu dois te marier, avoir des enfants, acheter une maison, faire ceci et cela, c'est la sécurité. Et c'est au bout de 30 ans seulement que j'ai pu me libérer et alors commencer à écrire aussi. Et donc, en fait, c'est un peu la vie qui nous met aussi devant des choix et des chemins. Donc, en fait, de quoi je vais parler, c'est des chemins que j'ai parcourus et que chacun peut parcourir également. Simplement, il faut être prêt et ouvrir les yeux pour pouvoir les voir au moment où on est en recherche, en fait.
Voilà. Quoi le chemin, alors, le premier chemin?
Le premier chemin, c'est l'insatisfaction. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les gens qui se mettent en route pour réaliser un projet qui leur est à cœur depuis l'enfance, en général c'est depuis l'enfance, ce sont des gens qui un jour ne sont plus satisfaits ou sont plutôt dans la douleur ou la souffrance de faire quelque chose qui ne leur convient pas. Et ça c'est le signal. Tant que l'on est plus ou moins bien dans sa vie, à ce moment-là la personne n'est pas encore prête. Tant qu'on est plus ou moins bien, c'est ce que font la plupart des gens. Ils survivent au lieu de vivre. Et moi, de quoi je vais parler ici, c'est de vivre, c'est de prendre sa vie en main. Donc à partir du moment où on est vraiment prêt, alors on est prêt à ce moment-là à recevoir des coups aussi et à payer le prix pour réaliser ce qu'on veut. Je ne sais pas si je suis clair.
Oui, tout à fait. Donc c'est le premier pas.
Le premier pas, c'est la douleur. C'est de dire, j'en ai marre de ce que je fais, je veux faire autre chose, je ne peux pas continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie et vieillir et passer à côté de mes rêves. Regardez, je vais vous donner un exemple. Alors que nous sommes assis ici, par exemple, à parler, eh bien, il y a des gens au même moment, en face de chez moi, en face de chez vous, qui se disent que leur vie n'est plus valable, qui sont prêts à se donner la mort. Ils se disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue pour eux. Or, c'est vraiment à côté de chez nous, dans la même ville, dans la même société. Certains sont peut-être vos amis à vous. Ils ne reçoivent pas des bombes sur la tête, ils ne sont pas handicapés la plupart physiquement, ils ont la plupart aussi un bon travail, ils sont aimés par leur famille, et pourtant, à certains moments, certaines personnes se disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, elles se donnent la mort. Et ce que je voudrais dire à tout le monde, au public ou à l'auditeur, c'est de regarder sa montre actuellement, à l'heure qu'il est actuellement sur sa montre, et de se souvenir que l'heure qu'elle indique est que d'ici demain, à la même heure, plus de 1850 individus auront essayé de se suicider en Europe. Et ce qui est important de se dire, c'est pourquoi ? Parce que 300 vont réussir. C'est-à-dire qu'il y aura, d'ici demain, à la même heure, 300 personnes qui auront réussi à se donner la mort. Alors on peut se demander pourquoi. Et on peut se demander aussi, j'ai quelques statistiques intéressantes, c'est que dans les 24 heures, nous compterons 70 drogués nouveaux à l'héroïne, 120 vont mourir des suites de l'alcoolisme, et d'ici demain, à la même heure, près de 12 000 personnes auront leur première dépression nerveuse. Je ne sais pas si on se rend compte de ça, c'est d'ici demain, à la même heure. Et je me suis demandé toujours pourquoi, en animant des séminaires, des conférences, je me suis demandé comment certaines personnes peuvent voir la vie d'une façon négative, alors que d'autres l'aperçoivent d'une façon tout à fait différente et d'une façon optimiste, alors que la vie est neutre, elle n'est ni négative ni positive. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, chacun de nous sait au fond de lui-même qu'il peut s'améliorer, que nous ne vivons pas pleinement notre capacité que nous avons, c'est-à-dire que nous ne vivons pas à pleine capacité. Et à partir du moment où on se rend compte de cela, et que nous n'agissons pas, nous commençons à nous déprécier. Et à force de nous déprécier, sachant que nous pouvons faire des choses, mais que nous ne les faisons pas, finalement nous arrivons à nous haïr. Certaines personnes se sentent un peu comme un échec ambulant. Et c'est à partir de là que, se sentant déprécié, comme un échec ambulant, eh bien certaines personnes préfèrent abandonner la vie. Ce qui est extraordinaire, c'est que, ici où nous vivons, je parle de l'Europe, malgré tout ce qu'on nous dit à la télévision, les radios, etc., nous vivons dans un monde d'abondance. C'est un peu curieux à dire ça, parce que, en fait, quand on écoute la radio, la télévision, on nous dit le contraire. Mais si on regarde bien, nous dépensons des milliards chaque année en football, actuellement. Nous dépensons, dans la société dans laquelle on vit, des milliards d'euros en cigarettes, en produits de beauté, des milliards en loisirs, en vacances. Ça veut bien dire que nous sommes dans un monde d'abondance. Notre monde, si on le regarde sous une autre facette, notre monde est vaste, grand et merveilleux. Et si on arrive à le voir, les rivières, les mers, les arbres, les vallées sont un témoignage de l'abondance qui nous entoure et que certaines personnes n'arrivent plus à voir. Elles ne l'arrivent plus à voir parce que, comme je vous l'ai dit, elles se sont dépréciées et elles voient à travers un filtre négatif. Si on regarde au travers d'un télescope et qu'on le pointe dans le ciel, on se rend compte que le monde est extrêmement grand. Et si on regarde en un plus grand télescope, encore plus puissant, on se rend compte que le monde est encore plus grand que l'on pouvait imaginer. Et je pense que le plus grand télescope du monde se trouve au Chili. Et si on regarde encore au travers de ce télescope, on peut se rendre compte que nous vivons dans un monde immensément grand. Et ça, chacun de nous, en fait, l'oublie. Nous oublions que nous vivons dans un monde d'abondance. Par exemple, l'alphabet compte 26 lettres. Jamais aucun poète ne s'est dit « il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet ». Les plus grands poèmes, les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature ont été écrits avec simplement 26 lettres. Là aussi, du côté des musiciens, il y a 7 notes de musique. Aucun musicien ne s'est jamais plaint qu'il y ait 7 notes de musique. Avec ces 7 notes de musique, ont été écrites les plus grandes symphonies du monde. Et au niveau des artistes aussi, des peintres par exemple, il y a 3 couleurs fondamentales, le bleu, le rouge et le jaune. Et jamais aucun peintre ne s'est plaint qu'il n'y a que 3 couleurs. Les créateurs, et les créateurs de mode ou les peintres, ne se sont jamais plaints. Les trois couleurs fondamentales peuvent créer l'infini. Des personnes positives voient l'abondance là où d'autres ne voient que l'imitation. Moi, mon rôle à moi, ce n'est pas de dire cela simplement avec des mots. C'est simplement d'amener les gens à ouvrir les yeux sur ce qu'ils ne voient pas. Et à partir du moment où on commence à voir autour de soi des choses qu'on avait, qui étaient là présentes, mais qu'on n'avait jamais vraiment remarquées, on se dit qu'en fait, finalement, nous avons bien de la chance d'être dans ce monde-là, dans un monde vraiment d'abondance. Et finalement, même je crois que, même en philosophant un peu, en disant que le seul fait de vivre déjà est déjà une abondance. C'est déjà le plus beau cadeau du monde. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'on peut traverser tout cela et comment est-ce qu'on peut arriver à voir. Et mon rôle à moi, lorsque je donne des conférences ou des séminaires, c'est de mettre des gens dans certaines positions pour qu'ils se rendent compte que, premièrement, la première chose qui nous empêche de voir, ce sont les habitudes, c'est la programmation. Nous sommes programmés. Quand je le dis, ça semble une évidence. Bien sûr que nous sommes programmés depuis l'enfance. Les parents, les injonctions parentales, les professeurs, les amis, la société nous programment d'une certaine façon. Et il est très difficile de changer ces habitudes. Les habitudes ont un bon côté, ceci dit. Par exemple, si nous on n'avait pas d'habitude, eh bien ce serait difficile pour nous d'ouvrir une porte. On devrait chaque fois se demander comment s'ouvre une porte alors qu'il suffit de tirer la poignée et puis la porte s'ouvre. Mais si on n'avait pas d'habitude, chaque fois qu'on se trouverait devant une porte, il faudrait chaque fois se demander comment l'ouvrir. Donc les habitudes, en soi, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que les habitudes sont aussi ancrées dans notre façon de penser. Nous avons par exemple l'impression, lorsque nous sommes face à face avec quelqu'un, que nous discutons, c'est-à-dire que nous avons des opinions. En fait, les opinions que nous avons, ce sont des programmations. C'est-à-dire que nous avons l'impression que nous discutons avec quelqu'un et nous ne faisons que répéter ce que l'on nous a dit dans l'enfance, ou bien nos parents, ou bien la télévision, ou bien les radios, les médias, etc. Donc on ne fait simplement que répéter. Nous n'avons pas d'opinion personnelle réellement. Ça, c'est la programmation. Je peux d'ailleurs vous donner un petit exercice à faire immédiatement pour bien voir comment nous sommes programmés. Je vais vous demander de prendre quelques instants pour croiser les bras. Faites-le. Croisez simplement les bras. Voilà. Maintenant, vous avez croisé les bras. Voilà, c'est fait. Très bien. Maintenant, vous allez croiser les bras dans la même position, avec les mains et tout, mais sans réfléchir, en sens inverse. Allez-y, faites-le.
C'est fait.
Vous avez remarqué que ce n'est pas si simple que ça, hein? Est-ce que les mains sont vraiment dans la même position que dans l'autre sens? C'est pas sûr, hein? Et restez en sens inverse comme cela. Restez en sens inverse, c'est très amusant, parce que vous avez remarqué que ce n'est pas très agréable. Vous l'avez remarqué? Ce n'est pas très aisé, je veux dire, d'avoir les bras croisés en sens inverse. Eh bien, reprenez votre conditionnement, remettez vos bras comme vous voulez. Alors, le fait d'avoir ces bras croisés en sens inverse, si vous commencez à croiser les bras en sens inverse pendant une quinzaine de jours, eh bien, ça deviendra une nouvelle habitude. Ce sera tout aussi confortable que dans l'autre sens. En fait, là, vous venez de remarquer que nous sommes vraiment conditionnés et qu'un changement dans notre vie, quel qu'il soit, commence par être désagréable. Et ça s'appelle la résistance au changement. Si nous voulons changer de vie, si nous voulons changer de partenaire, par exemple, de vie, ou bien si nous voulons nous marier, si nous sommes célibataires, ou bien si nous voulons déménager, ou si on veut changer de métier, eh bien, il faut savoir que l'on passe d'abord par un moment inconfortable, avant que ça devienne inconfortable. Je vais vous donner un exemple sur moi-même. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais avec deux doigts. Et je dois dire qu'avec mes deux doigts, j'allais très vite. Et puis un jour, une dactylo qui me voyait écrire m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous n'apprenez pas à écrire avec vos 10 doigts ?» Ah ben j'ai dit « C'est une bonne idée ». Et donc je me suis mis à apprendre à écrire avec les 10 doigts. Mais il faut savoir que pendant 1 mois à 2 mois, j'ai écrit plus lentement qu'avec mes 2 doigts. Il a fallu que je ralentisse pour aller plus vite après. Ça veut dire que j'ai dû accepter de passer par un moment inconfortable avant que je puisse prendre plus de vitesse dans ma façon d'écrire et aussi plus d'aisance. Et heureusement que je l'ai fait. Mais pendant un moment, j'avais envie d'abandonner parce que les fautes que je faisais étaient telles que je me disais « je ne vais jamais y arriver, ça va beaucoup plus vite avec 2 doigts ». Voilà par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tellement programmés que lorsque nous voulons changer quelque chose, nous sommes obligés, et je crois qu'il faut l'accepter, sinon ce n'est pas possible autrement, de passer par une phase d'inconfort pour arriver à avoir une aisance dans une nouvelle discipline. Je vous donne un autre exemple. Lorsque le meilleur champion du monde, lorsque le champion du monde de tennis, par exemple, gagne un match, eh bien, le lendemain, il est de nouveau sur le court avec son entraîneur, alors que c'est le champion du monde. Il pourrait dire « je n'en ai pas besoin ». Eh bien, son entraîneur va l'aider à améliorer un coup qui est peut-être plus faible pour qu'il devienne encore meilleur. Mais pendant son entraînement, alors qu'il doit commencer à réfléchir, le coup qu'il va faire sera moins bon que celui qu'il faisait avant pour devenir encore meilleur. Je ne sais pas si je suis bien clair.
Ah, très très clair, je comprends parfaitement.
Vous comprenez bien, très bien. Il faut passer par une phase d'inconfort, c'est-à-dire il faut ralentir un peu pour pouvoir s'améliorer. Et la plupart des gens, je veux dire la plupart des personnes, je remarque que le frein, il est là. C'est-à-dire on a difficile à traverser ce moment d'inconfort pour devenir meilleur. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Si on veut devenir meilleur, il faut prendre le temps d'apprendre. Et c'est le temps d'apprentissage est toujours inconfortable. Je vais vous donner quelques exemples, par exemple, sur les habitudes et sur la programmation et sur le confort que nous avons et les difficultés de traverser notre confort. Il y a un naturaliste qui s'appelle Jean Fabre qui a fait une expérience. Il a mis des chenilles processionnaires, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des chenilles. La seule différence entre les autres chenilles, c'est qu'elles suivent une première chenille. Donc elles avancent à la queue leu-leu. Et ce naturaliste, donc Jean Fabre, a fait une expérience assez extraordinaire. Il a mis les chenilles processionnaires en cercle. Et il a fermé le cercle. Et donc, les chenilles processionnaires ont commencé à tourner en rond. Il faut savoir aussi que la nourriture des chenilles processionnaires, ce qu'elles aiment, c'est des pommes de pin. Et il a mis des pommes de pin tout autour du cercle. Et il a remarqué une chose assez extraordinaire, c'est que comme les chenilles processionnaires suivaient la personne qui était devant, donc la première chenille, eh bien elles ont continué à tourner en cercle et elles sont toutes mortes de faim, alors qu'il y avait l'abondance à côté d'elles. Beaucoup de gens sont un peu comme des chenilles processionnaires, c'est-à-dire que malgré l'abondance qui nous entoure, certaines personnes meurent de faim, alors que l'abondance est là tout autour de nous. Je ne sais pas si vous avez visité la ménagerie d'un cirque, ça se perd un peu maintenant, mais moi étant enfant je l'ai fait, et on peut remarquer par exemple qu'il y a des éléphants, des grands éléphants, attachés à un petit morceau de bois qui est simplement planté dans le sol, avec une ficelle attachée à sa patte. Et on peut se demander, mais comment un éléphant si puissant ne casse pas la ficelle et ne va pas se balader dans la ville? Eh bien, c'est parce que Quand il était petit, quand il était bébé, l'éléphanteau, eh bien, on l'avait attaché, sa patte, à un pieu en fer et une chaîne en fer solidement enfoncée dans le sol. Et tous les essais qu'il faisait pour se dégager étaient inutiles, il ne pouvait pas se dégager. Alors, devenant adulte, chaque fois qu'il sent une petite résistance, il a l'impression qu'il est comme le bébé qu'il était, qu'il ne pourra pas se dégager alors que ce n'est qu'un simple petit, c'est une simple petite corde attachée à un petit poteau, à un petit bout de bois. Là aussi, je pense que beaucoup de personnes ont oublié la puissance qu'ils ont en eux parce que nous sommes programmés. Nous avons des limites que nous ignorons. Une autre très très belle expérience a été faite, enfin très belle, est un peu spéciale. On a pris un cobaye et on l'a mis dans un entonnoir en verre et on a rempli l'entonnoir à moitié. Et alors, le savant a mis le cobaye dans l'entonnoir. C'est une expérience un peu bizarre, mais qui est assez intéressante. Et il a alors chronométré le temps qu'allait mettre le cobaye pour arrêter d'essayer de se sauver, de sauver sa peau, et de se laisser mourir. Et quand il abandonne la première fois, immédiatement le savant le sort de l'eau, le laisse récupérer et le remet dedans. Et il recalcule de nouveau. Et il a remarqué qu'après 2-3 fois, le cobaye, qui n'est pas bête du tout, sait très bien que s'il se laisse couler, on vient tout de suite le rechercher. Ça veut dire qu'après 2-3 fois, dès que le savant met le cobaye dans l'eau, dans l'entonnoir, immédiatement il se laisse couler. Parce qu'il sait qu'on va venir le rechercher. C'est très intéressant parce que moi, par exemple, avec mes enfants, connaissant évidemment ce processus, je les ai laissés vraiment se débattre longtemps pour trouver la solution avant d'aller les chercher. Une autre expérience a été faite par un autre chercheur. Il a pris un aquarium en verre, donc un grand aquarium. Il a rempli d'eau, bien sûr. Et au milieu, il a mis une séparation en verre. D'un côté, il a mis un bébé barracuda féroce, un féroce bébé barracuda. Et de l'autre côté, il a mis un merlan, un bébé merlan. Or, les barracudas adorent les merlans. Alors, mais chaque fois que le bébé barracuda voyait le merlan, il fonçait pour l'attraper. Et évidemment, il se cognait la tête contre la vitre de l'aquarium. Et en grandissant, quand ils sont tous les deux grands, le chercheur a enlevé la séparation de l'aquarium. Et alors, on a remarqué une chose extraordinaire, c'est même difficile à croire, c'est que le barracuda fonçait vers l'endroit pour attraper le merlan et s'arrêtait exactement à l'endroit où était la séparation en verre et retournait de son côté. C'est-à-dire qu'il avait vraiment été bien programmé. Une autre expérience intéressante qui peut nous ouvrir les yeux sur notre vie, un chercheur a pris un baquet et il a mis de l'eau dedans. Un baquet pas très haut, de quelques centimètres de haut. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il est important de savoir qu'il a mis une grenouille dedans. Ça veut dire que la grenouille, en sautant, peut carrément sortir du baquet sans aucun problème. Et dans ce baquet, il a mis de l'eau, il a mis des petits cailloux, il a mis des nénuphars pour que la grenouille se sente à l'aise dans son confort. Et alors, il a commencé à faire chauffer le baquet d'eau chaude, mais très 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 lentement. Et on s'est rendu compte que la grenouille, dans la chaleur, dans son confort, a commencé par s'engourdir. Et puis quand évidemment l'eau était très chaude, eh bien elle est morte, cuite, bouillie dans son confort d'eau chaude. La question qu'on peut se poser, c'est combien de grenouilles sommes-nous autour de nous qui simplement vivons dans notre confort et on finit par s'engourdir et à ne plus commencer à marcher vers sa vie, en fait. Et pendant que je donnais une conférence, et un jour, j'ai une dame qui s'est levée dans la salle et m'a dit « Mais monsieur Félicialis, moi j'ai encore aussi quelque chose à vous dire à ce sujet. Est-ce que vous savez que les poissons rouges se développent dans l'espace où ils vivent et grandissent en conséquence ? Ça veut dire que si on leur donne un petit bocal, eh bien ce sont des petits poissons rouges. Et si on leur donne un très grand bocal, ou même carrément un étang, alors on a d'énormes poissons rouges. » Je ne connaissais pas cette histoire. J'ai trouvé ça très intéressant parce que moi je ne suis pas grand. Et je me suis posé la question en me disant, mes parents, sans savoir, m'avaient peut-être mis dans un petit baquet, dans un petit espace. Mais au bout d'une trentaine d'années, j'ai commencé à grandir. J'ai occupé beaucoup plus d'espace dans ma vie. Et maintenant, quand je passe devant un porche très haut, je baisse la tête pour ne pas me cogner. Donc la première chose que nous venons de voir, c'est clair que nous sommes programmés et que nous avons des habitudes. Bon, le dire ne suffit pas. Il faut que chacun de nous puisse le constater. En fait, nous ne sommes pas libres. Les personnes qui sont libres doivent traverser leur conditionnement. Et comment est-ce qu'on peut traverser le conditionnement ? Eh bien, la seule façon de faire, il faut prendre le premier point, c'est de prendre des risques. Alors, il faut savoir qu'on traverse ces programmations quand nous sommes arrivés au point, je vous ai dit tout au début, c'est que la vie que nous vivons ne nous satisfait plus. À partir de là, on est prêt à traverser ses habitudes et à commencer à prendre des risques. Et alors, il faut savoir que prendre des risques, ça veut dire que quel que soit l'objectif que l'on se fixe pour obtenir quelque chose, cela veut dire qu'il faut être prêt aussi à payer le prix. La plupart d'entre nous, nous rêvons des gens qui ont réussi, etc. Mais on ne sait pas que ces gens qui ont réussi ont d'abord eu de nombreux échecs. Ils sont tombés plusieurs fois. Pour devenir adultes, nous sommes tombés des milliers de fois. C'est-à-dire que quand on s'est levé étant enfant, eh bien, par exemple, on s'est levé, on avait le derrière trop en arrière et on est tombé. Et puis on s'est quand même relevé et on a mis le derrière tout en avant et on est retombé. Et puis on a trouvé l'équilibre et puis on a mis sa main trop en arrière et puis sa tête, etc. Je veux dire que chaque fois que l'on tombe, on apprend aussi à trouver l'équilibre, on apprend à ne plus faire ce qui n'est pas bon pour nous, et aller vers ce qui est bon pour nous. Ça veut dire que les expériences qu'on a, certaines personnes appellent ça des échecs. Moi, j'appelle ça plutôt de l'expérience. Donc les expériences que nous avons nous permettent justement de trouver l'équilibre et de marcher vers ce qui est bon pour nous. Ça, c'est un petit problème. Alors, ce qu'on peut faire d'ailleurs pour les programmations, par exemple, je dis souvent aux gens, je regarde un peu dans la salle quand je donne une conférence, et je repère toujours au premier rang quelqu'un qui a des lacets. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez venir devant nous ? Et alors je lui donne un micro et je lui dis, est-ce que vous pouvez délacer vos chaussures ? Ce serait intéressant si vous avez des lacets de le faire d'ailleurs. Simplement délacer une chaussure. Enlever le nœud, quoi, c'est tout. Et après je leur demande, si vous voulez faites-le maintenant, si vous avez des lacets évidemment. Et alors je demande de nous dire dans la salle tout haut, dites-nous comment vous lacez vos chaussures. Est-ce que vous prenez le bout gauche avec le pouce et l'index gauche, l'autre bout avec l'index et le pouce droit? Est-ce que vous passez en dessous ou au-dessus du bout gauche? Et je n'ai jamais eu personne qui a pu m'expliquer comment il laçait sa chaussure. Ça veut bien dire que nous sommes vraiment programmés. Et heureusement, dans un sens, sinon ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps pour vivre. Mais le problème des habitudes, comme je vous l'ai dit, c'est que ça nous empêche aussi de sortir de cela. Et pour ne sortir de cela, il faut prendre des risques. Alors, pourquoi prendre des risques ? La question à se poser, c'est de se demander pourquoi est-ce que nous serions prêts à prendre des risques et recevoir des coups dans la vie ? Si nous n'avons pas un objectif qui est fixé dans notre vie, on ne fera pas. On ne peut pas prendre des risques si on n'a pas un objectif qui est fixé. C'est-à-dire, si on ne sait pas pourquoi l'on vit ou pourquoi on veut vibrer dans sa vie, on ne peut pas prendre des risques. C'est trop difficile. Parce que prendre des risques, ça sous-entend prendre des coups aussi.
Est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre des risques, Antoine ?
Ben, c'est-à-dire que c'est comme ça que nous avons appris à marcher, en prenant des risques. C'est comme ça que nous avons appris à rouler à vélo. C'est en prenant des risques. On est tombé et on a appris. C'est ainsi que j'imagine que la plupart des femmes, pas moi, je ne suis pas un bon cuisinier, mais je pense que la plupart des bonnes cuisinières ont appris à bien faire la cuisine, c'est en prenant des risques, c'est en se trompant, c'est en faisant brûler les choses ou en ne les épissant pas assez. Je pense qu'il est impossible de faire une expérience et d'avancer sans prendre un risque. Et il faut savoir aussi qu'on va tomber. La plupart des gens ont peur de l'échec. Et c'est la peur de l'échec qui les empêche de se réaliser. Par exemple, il y a des injonctions parentales qui nous empêchent d'avancer. On peut se dire, voilà, la direction que je veux, mon objectif, il est là devant, j'y vais. Et si on ne sait pas que l'on va forcément s'égarer avant de retrouver l'endroit, eh bien, la plupart des gens s'égarent et puis se disent « Ben oui, mon père avait raison, il m'avait dit que j'étais un crétin ou que j'étais pas capable ou que ma sœur était meilleure que moi. Je voulais aller là et je suis arrivé ailleurs. » En fait, lorsqu'un pilote d'avion monte dans un avion, il a une trajectoire, il a un objectif, il sait où il doit aller. Mais chaque fois, et il ne peut pas faire autrement, la tour de contrôle de destination lui envoie des indications. Et chaque fois qu'il s'égare, il corrige. Un pilote d'un bateau fait la même chose. Lorsque, je ne sais pas si vous avez déjà piloté un bateau, je veux dire même un simple voilier, eh bien on arrive à destination qu'après des centaines et des centaines de corrections. Il faut avoir devant soi l'objectif, mais il faut chaque fois corriger parce que le vent ou le courant nous emporte dans des directions différentes. Alors certaines personnes se disent « je voulais aller là, mais je n'y suis pas arrivé ». D'autres se disent « Ok, c'est là que je voulais arriver, mais le vent m'a porté ailleurs, je corrige ma trajectoire et je recorrige ma trajectoire et je recorrige ma trajectoire pour arriver à destination. » Ça, c'est prendre des risques. Ça veut dire accepter de tomber, accepter de se tromper et alors avoir l'intelligence de corriger. Mais pourquoi prendre des risques? Si on n'a pas d'objectif devant soi, je veux dire que on se sent mal quand on n'a pas d'objectif. On ne peut pas accepter de se tromper, prendre des risques, de tomber, de se tromper de chemin si on ne sait pas pourquoi on veut vivre. Donc ce qui est important pour pouvoir traverser les risques, c'est bien entendu d'avoir un projet. Alors les gens, la plupart du temps, me demandent, mais comment savoir ce qui est bon pour nous? Eh bien, je veux dire, j'en sais rien du tout. Pour savoir ce qui est bon pour nous, je n'ai qu'une seule réponse, c'est qu'il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut essayer différentes directions, il faut prendre différents chemins, monter plusieurs montagnes, se tromper plusieurs fois, jusqu'au moment où on se dit, voilà, ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Parce que la vie ne se passe pas dans l'intellect, la vie se passe dans l'action. Personne ne peut savoir à l'avance ce qui est bon pour lui-même. Moi, je ne savais pas que donner des conférences et écrire des livres, c'était bon pour moi. J'avais un rêve étant enfant, c'était écrire, d'accord. Mais je suis passé par d'autres chemins avant d'y arriver. Et je ne savais pas non plus que je pouvais donner des conférences et des séminaires. Il a fallu que la première fois je fasse, que ça soit plus ou moins bon ou plus ou moins mauvais, pour que me dire, tiens, ça me plaît, pour continuer dans ce sens-là, pour que ça devienne un peu moins mauvais, et puis un peu moins mauvais, jusqu'au moment où ça commence à devenir bon, et un peu plus bon, et un peu meilleur, etc. Je veux dire que la plupart des gens, nous tous, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. C'est d'ailleurs, malheureusement, une des grandes erreurs de l'éducation. C'est-à-dire que les jeunes doivent très vite choisir un métier. Or, si j'ai fait des petites statistiques, la plupart des gens qui ont un diplôme et n'exercent jamais La grosse majorité n'exerce pas le métier pour lequel ils ont été formés, parce qu'ils sont trop jeunes pour savoir ce qui est bon pour eux. Et l'intellect n'est pas suffisamment, n'est pas bon pour nous dire avec certitude ce qui est bon pour nous. Ce n'est que l'expérience de la vie. C'est le fait de rencontrer des gens, de faire des choses et de tomber sur quelque chose qui tout à coup nous satisfait et nous dit « je suis heureux de me lever le matin parce que je ne vais pas du tout travailler, mais je vais exercer ma passion. Je puis voir, je suis un créateur et je vais créer, quel que soit le métier d'ailleurs, ça peut être aussi bien un garagiste que boulanger, qu'un artiste, qu'un musicien ou qu'un comédien. On peut trouver sa satisfaction et sa créativité dans n'importe quel métier. Mais pour cela, on ne peut pas le choisir avec son cerveau. Pour ça, il faut le faire avec l'expérience. C'est-à-dire, il faut mettre un pied devant, prendre des risques de se tromper et de se dire, ok, c'est pas le bon encore, je continue, je cherche ailleurs. D'ailleurs, je crois en fait, en réfléchissant bien, que l'éducation, choisir un métier, comme on le fait très tôt, est un obstacle à notre créativité. Parce que beaucoup de jeunes qui ont un diplôme se restreignent avec ce diplôme et ne cherchent pas ailleurs, dans d'autres conditions. Ils se sont dit, j'ai fait des études, j'ai passé autant de temps pour apprendre cela, et donc c'est ça maintenant que je vais exercer. Et parfois, il n'y a pas de disponibilité dans cette direction. Et ils restent bloqués. Pardon ?
J'ai une question.
Oui ?
Parce que vous parlez de ces jeunes qui ont des diplômes et qui ne vont que dans une seule direction, mais c'est ça, comment se reconnecter à son rêve? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas de rêve d'enfance, comme écrire, comme vous en aviez eu, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on doit forcément passer par l'erreur ou par des choses qu'on n'aime pas pour trouver son rêve, ou y a-t-il des moyens plus rapides?
Je pense qu'il n'y a pas de raccourci possible.
D'accord.
Peut-être certaines personnes, comme Mozart ou d'autres, sont tombées dedans tout de suite, je veux dire. Mais ça, ce sont des génies. Nous n'allons pas parler des génies, parce que on parlerait que de quelques personnes dans le monde. Ici, on parle de la majorité des gens. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour être satisfait de sa vie. Et d'après ce que j'ai remarqué, moi c'est une constatation que j'ai faite, c'est la plupart des gens font des tentatives, ils essayent, ils se trompent, et c'est en se trompant, et par hasard, il arrive que des gens sont sur le bon chemin directement. Tant mieux à ce moment-là. Mais je veux dire qu'il ne faut pas se baser sur ces gens-là, ce sont des exceptions. La plupart des gens qui ont une grande satisfaction de leur vie, ce sont des gens qui ont touché à tout, à beaucoup de choses, et qui ont trouvé une satisfaction dans un domaine. Et se sont dit, là, en me levant le matin, je suis heureux de me lever. Or, la majorité des gens autour de moi, ce que je peux voir, c'est que la plupart des gens se lèvent le matin et se disent, zut, encore une journée à passer, et j'espère qu'elle va passer très vite à mon boulot. Alors que, par exemple, moi, si vous ne m'arrêtez pas, ben, je peux continuer à vous parler comme cela pendant des heures, parce que c'est ma passion. Vous voyez la différence? Parce que je suis clair.
Oui, tout à fait. Alors, on a parlé...
Oui, allez-y.
On a parlé de fixer un objectif, et que ce n'était pas un raccourci pour réaliser ses rêves. C'est quoi l'étape suivante?
L'étape suivante, donc, c'est prendre un risque, hein. Donc, c'est accepter de se tromper. Et alors, se fixer un objectif. Alors là, je peux vous donner un deuxième exercice pour vous montrer la force et la puissance de l'objectif. Je demandais donc à l'auditeur qui nous écoute de se mettre debout.
Ils sont des milliers, hein, Antoine, donc pas de problème. Ils sont des milliers, ces auditeurs.
Eh bien, ces milliers d'auditeurs se mettent debout, font une expérience, c'est une expérience très amusante. Faites-le aussi, parce que vous allez voir...
Oui, je vais le faire, je vais le faire.
C'est intéressant. Vous vous mettez debout, je le fais moi-même, hein, je suis debout pour mieux vous expliquer. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas bouger de place. C'est-à-dire, vous mettez vos pieds, hein, à côté l'un de l'autre, mais pas tout à fait à côté, sinon vous allez perdre l'équilibre. Simplement... Je vais vous donner un exercice qui est en trois phases. Et vous ne bougez pas vos pieds pendant les trois phases, parce que sinon ça va fausser l'exercice. Vous me suivez bien ?
Oui.
Bien. Alors, je vais vous demander de mettre vos bras à l'horizontale. Quand vous y êtes, vous me le dites.
Oui, j'en ai un à l'horizontale parce que l'autre tient le téléphone, mais voilà.
Ah oui, alors, c'est pas grave, gardez le téléphone. Alors, si vous êtes droitier ou gaucher, avec l'index droit ou l'index gauche, vous allez tourner derrière vous. Alors, en tournant, faites attention qu'il n'y ait pas de meuble, évidemment, parce que ça va vous arrêter. Il faut pouvoir vraiment tourner. Et ce que je vous demande de faire, c'est, vous allez tourner le plus loin possible derrière vous, avec votre index droit, l'autre main est toujours à l'horizontale et suit, et vous allez fixer un point derrière vous, le plus loin possible derrière vous. Et vous allez mémoriser ce point dans votre cerveau. Vous mémorisez le point, et lentement vous revenez, et vous baissez les bras. Ça c'est la première phase. Vous avez bien mémorisé le premier point ?
Oui.
Bien. Maintenant, vous n'allez pas faire l'exercice avec les bras. C'est-à-dire, vous allez l'imaginer seulement. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire l'exercice physiquement. Vous restez toujours au même endroit. Vous fermez les yeux. Fermez les yeux. Et maintenant, je vous demande d'imaginer que vous avez de nouveau vos bras à l'horizontale et qu'avec votre index droit ou gauche, vous tournez de nouveau derrière vous et vous imaginez lentement que vous passez le premier point et vous allez plus loin. Vous imaginez que vous allez plus loin que le premier point et plus loin que le premier point, vous fixez un deuxième point imaginaire, vous le mémorisez et vous imaginez que vous revenez lentement, vous repassez par le premier point et ensuite vous baissez les bras et vous ouvrez les yeux. C'est fait ?
Oui.
Très bien. Maintenant, toujours à même endroit, nous allons refaire le processus, mais avec les yeux ouverts et physiquement. Donc vous avez les bras à l'horizontale, et je vous demande, écoutez bien ce que je vous demande, c'est comme la première fois, je vous demande de fixer un troisième point, et le plus loin possible derrière vous. Alors allez-y, faites-le, et vous allez voir jusqu'où vous allez arriver.
Moi, j'y suis arrivée jusqu'au point que j'avais imaginé.
Vous n'êtes pas allé plus loin ? Moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous pouvez dépasser le premier point imaginé, le
deuxième point imaginé ? Ah oui, non, moi, je suis allée jusqu'au... Pas au premier point que j'avais fait physiquement la première fois, jusqu'au point que j'avais imaginé, qui était au-delà du premier. Oui, qui était beaucoup plus loin.
D'accord. Donc comment se fait-il que la première fois où je vous ai demandé d'aller le plus loin possible, vous n'y êtes pas allé directement ?
Ça, je ne sais pas.
Eh bien, c'est très simple. C'est une question d'objectif. La plupart d'entre nous, nous vivons dans notre vie comme si nous étions déjà très loin. C'est-à-dire, en fait, tout se passe dans l'imagination. Si vous voyez grand, si vous avez la possibilité de croire en vous, en vos objectifs, vous pouvez fixer un point, donc un objectif très grand, dans l'abondance de la vie. Or, et là je vais vous en donner la preuve, vous savez, il ne faut pas écouter les conférenciers, et il ne faut pas croire non plus les écrivains. Mais moi, là je vais vous donner la preuve de ce que je vous dis. Heureusement que nous sommes pas, que je n'ai pas les gens en face de moi, parce que je leur dirais, ne me frappez pas. Je vais donc vous donner la preuve de ce que j'avance. Vous êtes prête ?
Oui.
Bien ? Tout le monde est prêt ? Alors, écoutez bien. La vie que vous avez toujours rêvé d'avoir, ben vous l'avez. Nous avons dans notre vie exactement ce que nous pensons que nous sommes capables d'avoir. Nous avons la maison de nos rêves, le conjoint de nos rêves, nous avons le métier de nos rêves. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous n'avons pas plus ? Parce que tout simplement, nous n'avons pas pointé notre doigt plus loin. Nous avons notre vie est faite exactement de ce que notre pensée pense, de ce que notre mental pense que nous sommes capables d'avoir. Mais à partir du moment où nous ouvrons notre imagination et que nous acceptons d'être dans l'abondance, on peut se rendre compte à ce moment-là qu'on peut obtenir beaucoup plus de choses. Il suffit d'ouvrir et de pointer plus loin. Ça, c'est la force de la fixation d'objectifs. Donc ce que nous avons vu, c'est que, je reprends un petit peu pour résumer.
Oui.
Nous avons des habitudes. Pour traverser nos habitudes, nous devons prendre des risques. Mais pourquoi prendre des risques si on n'a pas d'objectif? Donc ce qui est important, c'est déjà aussi avoir un objectif et se dire ce que j'aimerais faire, c'est ça, même si on se trompe, c'est pas important. Mais c'est d'avoir un endroit vers lequel on se dit en faisant cela, j'aurai une vie meilleure. Je veux dire que l'exercice que je vous ai fait faire, c'est un exercice important. Ça prouve bien que la plupart d'entre nous, nous vivons vraiment la vie que nous rêvons. C'est qu'il y a des gens même qui rêvent que leur journée, leur vie n'est pas bonne. Et ils se lèvent le matin en disant quelle sale journée je vais passer. Et ils passent une sale journée. C'est-à-dire que même là, ça se vérifie. Même là, on peut vérifier que on fixe un point qui est négatif et on obtient une journée négative. Voilà, donc on a vu cela. Alors, d'ailleurs, c'est pas compliqué. En fait, vivre, ce n'est pas dans l'intellect que ça se passe. Vivre, c'est dans l'action. Par exemple, combien d'amis avez-vous? On a parfois des amis qu'on a perdu de vue, on s'est dit j'aimerais bien leur téléphoner, mais je n'ose pas, etc., pour renouer. On a dans la tête le fait de le faire, mais tant qu'on ne prend pas son téléphone pour le faire, ça reste à l'état de projet, mais pas, ça ne devient pas une réalité. D'ailleurs, les savants le savent très bien, aucun savant n'a découvert quoi que ce soit simplement en l'imaginant. Un savant découvre quelque chose en faisant des expériences. Par exemple, je vais donner un exemple ridicule, il prend un cheveu, il le mélange avec quelque chose d'autre, et puis il regarde ce que ça donne, et il se dit ça marche pas. Et puis après, il prend un brin de gazon, et puis un gazon, et puis il essaye. Il fait des tentatives et des tentatives et des tentatives et des centaines de tentatives pour arriver à découvrir quelque chose. Mais ce n'est jamais avec la pensée. Il a un objectif. Par exemple, il se dit on va découvrir un vaccin contre ceci ou cela, mais ce n'est que par l'expérimentation et en faisant des centaines d'erreurs qu'il finit par trouver la solution. Donc, nous avons vu que nous sommes programmés, nous avons vu que pour casser les habitudes, il faut prendre des risques, les risques de se tromper, et pourquoi prendre un risque? Il faut bien sûr avoir un objectif. Et ce n'est que en ayant un objectif, en se levant le matin, en disant c'est de ça que je rêve, qu'à ce moment-là, il y a un petit moteur qui se met en marche et qui nous permet d'avancer vers cet objectif. En fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'à partir du moment où on a une idée dans la tête, cette idée nous porte. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde connaît l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Bon, il y a beaucoup de gens n'ont jamais lu le livre, beaucoup d'entre nous ont peut-être vu le dessin animé. Mais en fait, dans Alice au Pays des Merveilles, à un certain moment, Alice est perdue au fond d'un bois, c'est la nuit, et elle a très peur. Et tout à coup, en courant, elle se fait attraper par un arbre. Sa jupe est attrapée par un arbre. Et l'arbre lui dit « Oh là !» Elle lui dit « Oh, un arbre qui parle, quelle chance! Dites-moi, monsieur l'arbre, par où dois-je aller ?» Et l'arbre lui dit « Mais où voulez-vous aller ?» Elle dit « Je ne sais pas. » Et l'arbre lui répond « Mais alors toutes les routes sont bonnes. » Ça prouve encore une fois qu'il est important de savoir où l'on veut aller. Sinon, alors à ce moment-là, on arrive quelque part, mais c'est pas là où on a décidé d'aller. Et à partir du moment où on vit dans son objectif et qu'on atteint quelque chose par son âme et qu'on est satisfait de se lever le matin, alors on vit avec passion. On entre dans la passion. Et alors, une fois qu'on entre dans la passion, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du pianiste Rubinstein. Rubinstein est mort très très vieux. Je pense qu'il est mort à plus de 90 ans. Mais on raconte que quand il est mort, un journaliste a interviewé le médecin personnel de Rubinstein. Et le médecin personnel de Rubinstein disait que lorsqu'il le réveillait le matin, c'est lui qui allait le réveiller, il enlevait la couverture et il voyait un vieillard recroquevillé sur lui-même. Il faut savoir que Rubinstein, à la fin de sa vie, avait de l'arthrose des doigts, donc il ne pouvait plus bouger ses doigts, ce qui est évidemment bouleversant pour un pianiste. Alors c'est lui qui levait le Rubinstein, et très très lentement, la première chose qu'il faisait, c'était l'asseoir sur le tabouret de son piano. Et c'est lui-même qui prenait, donc c'est le journaliste, c'est le médecin personnel, pardon, qui prenait ses mains et qui mettait ses mains sur les touches du piano. Et là, il le laissait. Et alors, la magie opérait chaque jour, c'est que les doigts paralysés de Rubinstein commençaient à pousser doucement, doucement, l'une ou l'autre touche du piano. Et après une demi-heure, ses doigts couraient sur le piano, comme lorsque il jouait des concerts. Et c'est alors qu'il se levait seul, il avait le visage rose comme celui d'un adolescent, les épaules relevées, et c'est seul que Rubinstein alors allait prendre son petit déjeuner. Et la question à poser, c'est qu'est-ce qui rajeunissait Rubinstein tous les matins? C'est sa passion, bien sûr. Vous l'avez bien compris. Et nous allons terminer avec ça parce que je pense qu'avec ça, on peut en parler des heures. Donc nous avons vu, j'ai vite répété, nous avons vu que nous sommes programmés, donc nous ne sommes pas libres. Pour dépasser sa programmation, il faut savoir qu'on va prendre des coups, on va sortir de ses habitudes, c'est-à-dire on va sortir de sa zone de confort. On va se tromper, il faut accepter de se tromper parce que la passion a un prix et il faut être prêt à payer le prix, c'est-à-dire le prix de l'échec, de se tromper plusieurs fois ou même des centaines de fois. Et pour pouvoir prendre des risques, pour pouvoir accepter de prendre des risques et de se tromper, il faut avoir un objectif, il faut avoir une idée de ce que l'on veut. L'idée peut être fausse. Il faut savoir qu'on va prendre des chemins différents et se tromper de route jusqu'au moment où on trouve sa route. Mais quand on a trouvé sa route, à ce moment-là, on entre dans la passion. On devient un artiste de sa vie. Et à partir de ce moment-là, on ne travaille plus. On n'a plus besoin de savoir si on va gagner de l'argent parce qu'on s'enrichit de faire et d'être dans ce qui est bon pour nous.
Super. Alors Antoine, est-ce que vous avez un petit exercice pour nous
Pardon?
Pour Antoine?
Oui, je vous entends plus très bien.
Ah, vous m'entendez
Allez-y,
plus très bien.
Parlez plus fort peut-être.
Oui, alors donc la question c'est, est-ce que vous avez maintenant, que vous nous avez exposé tout le chemin qui est nécessaire pour pouvoir réaliser ses rêves et réussir, quel est un petit exercice que vous pouvez nous proposer maintenant?
Mais je vous ai fait quelques exercices. Je vous ai montré qu'on a été programmé.
Oui.
Ça permet de savoir qu'on est vraiment coincé, je veux dire, dans une vie et on n'est pas libre.
Oui.
Ça, c'est déjà une chose. La deuxième, je vous ai montré qu'il fallait avoir un objectif en pointant du doigt. C'est le deuxième exercice. Et moi, je pense que si vous voulez faire le meilleur exercice de votre vie, c'est de dire, voilà, ça m'intéresserait de faire ce genre de métier. et de commencer à parler avec des gens qui font ce genre de métier et de prendre des informations sur comment le faire. Et à partir de là, le faire. Et alors à partir de là, la personne se rend compte si ça lui plaît, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Et si ça vous plaît, alors c'est la magie. Donc je pense que le meilleur exercice, ce n'est pas un exercice psychologique ou un exercice à faire dans sa chambre. L'exercice, c'est de commencer à dire, ça suffit maintenant, j'ai tel âge, je ne veux pas vieillir et mourir avec ce genre de choses que je fais, ou avec la partenaire que j'ai, ou je vis dans un pays qui ne me plaît pas. Nous avons la possibilité et la liberté de faire ce que l'on veut dans sa vie. Et là, il faut prendre un risque. Alors, la personne qui sont suffisamment prêtes, ce sont celles, en fait, celles qui nous écoutent là, ce sont celles qui se disent actuellement, la vie que je mène ne me plaît pas. Je ne veux pas vieillir et mourir comme cela. C'est le meilleur exercice qu'on puisse faire. C'est se rendre compte, est-ce que je veux continuer à vivre et à vieillir et mourir comme cela? Si la réponse est non, et si l'insatisfaction est forte, et si la douleur est suffisamment forte, à partir de là, les choses vont se faire facilement. Je dis toujours, quand le fruit est mûr, il tombe tout seul. La plupart d'entre nous, on essaie d'aller chercher des fruits qui ne sont pas mûrs, et on doit tirer pour le décrocher. On ne peut pas commencer à marcher vers un objectif de vie pour que notre vie soit meilleure si nous ne sommes pas mûrs. Et pour être mûr, il faut avoir une insatisfaction et une douleur au fond de soi-même. En se disant, okay, simplement fermant les yeux, et en disant, dans 10 ans, où serai-je? Est-ce que je serai toujours là, en train de souffrir, en faisant quelque chose qui ne me plaît pas? Et je pense que rien que cet exercice déjà est suffisamment traumatisant. Certaines personnes vont découvrir qu'en fait, elles sont très bien là où elles sont. Ben alors, tant mieux. Alors, il suffit simplement d'améliorer les choses qui ne vont pas pour continuer sa passion avec plus de plaisir. Est-ce que ça vous suffit?
Très bien. Alors, en fait, donc, une fois que la personne... Si la personne est prête, elle dit « ça suffit maintenant », c'est quoi pour elle son étape suivante? Parce qu'elle dit « bon, ok, je ne veux plus de cette douleur, je suis à mon summum d'insatisfaction, je veux arrêter, mais où est-ce que je veux aller ?» C'est comme la jupe dans l'arbre. Maintenant, c'est quoi l'étape suivante?
Ben, l'étape suivante, c'est de pointer quelque chose, c'est de dire « dans tous les métiers qui existent, en fait, très souvent, ça se passe dans l'enfance. Je demande aux gens de se rappeler quel jeu leur plaisait le plus lorsqu'ils étaient enfants. Qu'est-ce qui était le plus satisfaisant pour eux? Et tout le monde, tous les enfants, nous avions un jeu qui nous plaisait. Certains, c'était de peindre, d'autres, c'était de fabriquer des choses, de créer ceci ou cela. D'autres, c'était de devenir boulanger. D'autres, c'était... médecin ou gynécologue, etc. Je veux dire, on avait tous un jeu de préférence dans l'enfance. Il suffit de retourner dans l'enfance et d'écouter son enfant intérieur. Parce que dans l'enfance, là où on jouait et on prenait du plaisir, c'est là qu'il faut retourner. La plupart des gens retournent là. Regardez-moi, c'est la même chose, je voulais écrire. Mais je suis passé d'abord par les injonctions parentales et la société. J'ai fait des tas de boulots qui ne m'intéressaient pas pour finalement me dire, je ne vais pas continuer comme cela. Mon but, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre « Va au bout de tes rêves ». C'est ce que je décris, en fait. Je me suis vu mort dans ma tombe. Et je me suis vu passer après mes amis. Et je me suis dit, mais Antoine, tu n'as pas réalisé ta vie. Tu voulais écrire. D'autres que toi ont écrit. Et toi, tu as passé ta vie à faire des choses inintéressantes. Et maintenant, ben, tu es mort, c'est trop tard. Voilà un bel exercice à faire.
Magnifique. Donc, c'est vraiment se reconnecter avec un petit peu les rêves d'enfant. Vous avez dit quel jeu nous donnait du plaisir. Donc, vraiment se reconnecter avec les choses positives de l'enfance, mais les choses vraiment de plaisir. Donc, ça, c'est voir avec ça, qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui, c'est ça?
Voilà. Et alors, à partir de ce moment-là, on remet le petit moteur de la pensée en marche. Et la pensée s'ouvre, le mental s'ouvre, Et à partir de ce moment-là, on va voir, on va rencontrer plein de gens, différentes personnes, qui étaient là, mais qu'on ne voyait pas avant, et qui pratiquent leur passion. Et il suffit d'aller voir comment ils font. C'est pas très difficile. Il suffit simplement, pas de copier, mais je dirais de modéliser. C'est-à-dire, comment une personne fait pour prendre du plaisir de ce qu'elle fait, si ça vous tente, ben il suffit de faire comme elle. Je vais vous donner un exemple. Moi, si je veux faire le meilleur gâteau au chocolat du monde, j'ai deux possibilités. Soit je vais me tromper des centaines de fois, ou bien je vais chercher qui fabrique le meilleur gâteau au chocolat au monde. Je vais le trouver, je vais lui payer, et je vais lui dire, montre-moi comment tu fais ton gâteau. Et là, j'ai gagné du temps.
Très bien. Donc,
une fois qu'on est attiré par quelque chose qui nous plaît, on peut faire des essais personnellement et se tromper des centaines de fois. On y arrivera. Mais on peut aller plus vite encore, et c'est un conseil que je donne, c'est d'aller trouver la meilleure personne qui jouit de sa passion et lui demander comment elle fait. Et elle vous apprendra à le faire. Elle sera bien heureuse de vous montrer comment elle fait.
Bon, c'est extra. Alors Antoine, parlez-nous un peu des stages de motivation ou des stages. Je ne sais pas s'il y a un stage qui s'appelle Va au bout de.
Voilà, moi j'ai un stage qui s'appelle Oxygène, qui est un stage de 5 jours. Il y en a un par exemple au mois de février, du 20 au 24 février en France, près de Lyon. Il y a un autre stage qui s'appelle Va au bout de tes rêves, qui est organisé une fois par an. C'est le stage, c'est le stage du livre Va au bout de tes rêves. J'emmène les gens un peu dans tous les pays d'Europe, ils ne savent pas où, enfin c'est complètement extraordinaire. Il faut aller sur mon site à ce moment-là, là j'en parle longuement, et je parle du stage, je parle que de ce qu'on y fait, etc. Et les gens qui sont intéressés peuvent aller jeter un petit coup d'œil. Mais peut-être serait-il bon de lire Va au bout de tes rêves, tout simplement. C'est un livre qui a eu beaucoup, beaucoup de lecteurs, et qui continue depuis 15 ans à se vendre très très bien partout, parce qu'il est juste et parce que les gens se retrouvent exactement dedans. Et je donne, et maintenant j'ai rajouté un stage que je donne aussi qui me plaît très fort, parce que j'ai un peu plus d'années d'expérience. Je donne aussi des stages de méditation, et j'invite des personnes qui désirent de venir nous rejoindre. Parce que la méditation permet aussi d'abord d'ouvrir sa créativité et de voir aussi ce qui est bon pour soi, et aussi de prendre du recul sur les tsunamis de la vie, sur les difficultés que les médias nous balancent tous les jours. C'est-à-dire on se recentre sur soi-même, et avec la méditation aussi on peut ouvrir sa créativité. On se reconnecte avec soi-même en fait.
Ok. Très bien. Eh bien, alors, merci infiniment à tous de nous avoir écoutés, et merci à vous, Antoine, d'être venu nous parler d'aller au bout de ses rêves. Merci et à bientôt.
À bientôt.